visible.
Visible.
C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Visible. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question que beaucoup de monde s'est posée. Pourquoi sommes-nous des garçons sensibles et différents? D'où vient l'homosexualité masculine? Je ne suis pas certain que l'on trouve une réponse, mais essayons avec mon invité. Il est journaliste indépendant, il est photographe, il sort un très bon livre qui s'appelle 4%, une enquête passionnante qui présente, questionne et déconstruit un éventail de suppositions sur la question gay. Bonjour Mathias Chaillot.
Bonjour.
Alors, je me suis dit que pour présenter ton livre, quoi de mieux que d'expliquer son titre 4%?
Eh oui, 4% en théorie. 4% c'est la proportion d'hommes homosexuels dans le monde. Ça c'est la réponse courte. En théorie parce que c'est le chiffre qu'on retrouve le plus souvent dans les études sur cette question de l'origine de l'homosexualité. Ils disent en général entre 2 et 6%. Donc on a pris ce chiffre prudent de 4% et c'est un chiffre qui remonte. Kinsey, dans les années, fin des années 40, disait 4% des hommes blancs américains étaient homosexuels tout au long de leur vie. Et dans les sondages un peu plus récents, 2019-2021, sur une trentaine de pays, on était aussi sur 4% d'hommes qui se déclaraient, se définissaient.
Oui, qui se déclaraient, c'est important.
Voilà, gays dans leur pratique et dans leur identité, si je puis dire, entre 4 et 5%. Et après, en théorie, parce que si on leur pose la même question sur leurs fantasmes, leurs désirs, ils sont entre 7 et 8% à se dire « je suis majoritairement homosexuel dans mes fantasmes ou mes désirs ». Et puis après, il y a ceux qui veulent et qui n'osent pas, ceux qui osent mais qui ne le disent pas. Donc en gros, selon comment on pose la question, est-ce que c'est l'étiquette que tu te colles? Est-ce que c'est tes pratiques? Est-ce que c'est ton désir? Est-ce que c'est une partie de ta vie ou la totalité de ta vie sexuelle et affective adulte? Évidemment, ça peut aller jusqu'à 30, 40, 50% de non strictement hétérosexuels, on va dire.
Le lobby gay va prendre de l'espace. Est-ce que tu peux aussi expliquer pourquoi tu ne t'es pas penché sur les questions des lesbiennes?
Oui, j'ai beaucoup hésité. Au début, dans mes recherches, j'ai un peu fouillé dans tous les sens et j'ai trouvé quelques travaux aussi sur l'homosexualité féminine. Il y a deux raisons qui font que je n'en ai pas parlé dans le livre. La première, c'est que c'est une quête personnelle. C'est pour ça qu'il y a un petit peu d'intime dans le livre. Moi, je suis en rapport direct avec mon sujet. Donc, je me suis dit, tiens, je vais parler de ce que je connais, là où je me sens plus légitime. Et peut-être que si des lesbiennes veulent faire ce bouquin, elles seront plus légitimes pour le faire sur l'homosexualité féminine. Et l'autre réponse, c'est que, étonnamment, non, il y a très peu de recherches sur l'homosexualité féminine.
Étonnant.
Donc, de toute façon, voilà, les travaux s'intéressent à l'homosexualité masculine pour plein de raisons. Je pense que, bon, d'une part, c'est un monde d'hommes et les hommes aiment bien se regarder le nombril en priorité. L'homosexualité masculine et féminine ont été stigmatisées toutes les deux, mais de façon différente. Et l'homosexualité féminine a été plutôt invisibilisée, donc y compris dans les travaux de recherche. Elle paraissait peut-être moins menaçante à partir du moment où on concevait que la sexualité féminine n'existait pas, l'homosexualité féminine encore moins.
C'est aussi un fantasme du mec hétéro.
Et en plus, elle est même plutôt excitante, donc on ne va pas trop la mettre à la marge, on va plutôt l'invisibiliser et l'utiliser quand on veut. Et donc, je pense que l'homosexualité masculine était un peu plus dangereuse politiquement, perçue comme dangereuse politiquement, et c'est pour ça que la plupart des lois homophobes, d'ailleurs, concernaient l'homosexualité masculine. L'autre n'existait pas. Donc pour toutes ces raisons, je n'ai pas vraiment traité de l'homosexualité féminine. Puis je dirais, comme on a le temps, je rajouterai un petit élément, c'est qu'en plus, quand on regarde les travaux sur l'homosexualité féminine, ils partent dans des directions complètement opposées. On va avoir une théorie sur l'homosexualité masculine, on va la transposer sur les femmes. Bon, ça ne marche pas.
Et c'est ça.
Donc il faudrait presque écrire un deuxième bouquin qui partirait dans d'autres directions, donc qui serait peut-être passionnant aussi, mais je pense que ce n'était pas à moi de l'écrire.
Et alors du coup, comment tu as eu l'idée de ce livre?
Je pense qu'il y a deux étapes peut-être. La première, c'est le moment où je me suis posé la question, comme plein de copains PD, pas tous, mais plein de copains PD, quand on commence à se découvrir homo, justement, dans un monde hétéro. Et à ce moment-là, c'est une question qui est souvent un peu teintée d'homophobie intériorisée, je pense, parce qu'on se demande pourquoi, alors que nos petits copains hétéros ne se le demandent pas, mais eux nous posent la question. Depuis quand tu te rends compte que t'es gay? Ce qui veut dire depuis quand? Enfin, qu'est-ce qui a changé en toi? Qu'est-ce qui est différent?
Parmi les nombreuses questions qu'on nous pose.
Oui, exactement. elles sont très nombreuses et parfois un petit peu déplacées. Et donc, on se pose la question parce qu'on se demande s'il n'y a pas un truc d'un peu pété, en fait, quelque chose d'un peu anormal. Et la question sous-jacente, même si on ne se la pose pas directement, mais qui est peut-être dans un coin de la tête, c'est « et si on trouve ce qui a changé, est-ce qu'on pourrait réparer cette pièce ?» Et donc, retourner dans le droit chemin de l'hétérosexualité. Donc la première question, c'est peut-être ça, c'est le moment où je me suis dit « à cause de quoi je suis homosexuel ?» Est-ce qu'on peut changer éventuellement? Et j'aurais bien aimé, je pense, avoir des réponses claires, des réponses qui me disent « Non, non, mec, grâce à quoi, éventuellement ?» Mais ce n'est pas forcément à cause, déjà. Puis si tu veux, on va regarder tranquillement, et puis tu vas voir, ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas très sorcier, c'est a priori, tu n'es ni un pervers, ni un malade, donc tout va bien. J'aurais bien aimé avoir ce bouquin, j'aurais bien aimé que mes parents l'aient aussi. Eux, ils avaient leur théorie, évidemment, et je ne savais pas quoi leur répondre. Et on a déjà assez de boulot quand on fait un coming out. On n'est pas en plus à devoir leur expliquer. Donc j'aurais bien aimé que mes parents aient ce bouquin à ce moment-là. Et puis ensuite, il y a eu une autre étape, c'est quand j'ai infiltré une thérapie de conversion pour un reportage. Et là, je me suis retrouvé face à une théorie, une des nombreuses théories, que tout le monde, les gens buvaient leurs paroles, puisqu'évidemment, ils venaient chercher des réponses. Et moi, j'ai commencé à écrire mon article et j'ai dit, bon, c'est quand même pas compliqué, leur théorie, c'est n'importe quoi. Une petite recherche Google, ça va être prouvé en 2 minutes. Et là, j'ai plongé dans le vortex, en fait. Et je me suis rendu compte de toutes ces dizaines de théories, ces décennies de travaux. Et c'est là que je me suis dit, genre, oh, mais en fait, il y a un sujet passionnant. Il y a plein de gens, y compris les homosexuels, qui enquêtent pour savoir pourquoi je suis gay, quoi.
Et du coup, comment t'as fait pour te plonger dans ce vortex dont tu parles, en fait ?
Alors, ça commence, la toute première étape, c'est on se perd. On se perd sur Google, on se perd dans les bouquins, on lit des trucs qui partent dans tous les sens. Et puis après, j'ai un peu identifié les domaines, donc la psychologie, la neurobiologie, la génétique, l'épigénétique, etc. Plus ou moins sérieux, hein, il y a des chapitres qu'on sautait. Je parlais de psychogénéalogie à un moment. Bon, je me suis dit, bon, ça, on va mettre de côté, parce que c'est encore moins carré que les autres. J'ai identifié les domaines, j'ai fouillé, et j'ai un peu tout pris ce qui me tombait sous la main dans un premier temps. Et après, on a fait le tri, notamment avec mes éditeurs, et on a décidé de garder soit celles qui faisaient relativement consensus. Aucune théorie ne fait jamais vraiment consensus, mais relativement consensus dans le monde scientifique, soit celles qui ont marqué des étapes importantes dans l'histoire de la question. Par exemple, le gène gay dans les années 90. Aujourd'hui, on sait qu'il n'existe pas, mais on ne pouvait pas passer à côté parce qu'on y a cru pendant longtemps et on y croit encore beaucoup si on n'a pas lu la dernière étude qui nous dit que la précédente n'était peut-être pas tout à fait juste.
Comment tu t'es senti quand tu traverses toutes ces théories et tout ? Parce que ça te parle de toi aussi ?
Ça me parle totalement. C'est pour ça qu'il y a des passages intimes dans le sujet, c'est parce que dans le livre, parce que je suis aussi en prise directe avec le sujet. Donc, ça remue beaucoup de choses, l'air de rien. Moi, je voulais partir sans a priori, sans idée préconçue. C'était pas un livre à thèse. Je vais pas défendre telle théorie plutôt que telle autre. C'était juste faisons le point sur ce qu'on sait. Et je me suis rendu compte que déjà, je savais pas beaucoup. Et finalement, chaque fois que je découvrais une théorie, je me disais genre, ah ouais, celle-là, elle marche bien quand même. Hein. Ou peut-être pas sur moi, mais sur mon pote machin. À mon avis, c'est ça. Tout d'un coup, on découvre une autre qui dit évidemment l'inverse total de la première. Tu dis, bon, ben ça aussi, c'est peut-être pas faux, quoi. Et à la fin, j'en ressors avec cette idée qu'il y a plein de choses qui sont assez crédibles. Mais toute personne qui te dira avoir la théorie, a tort. Le comportement affectif est tellement complexe, notamment chez l'humain, que c'est ça qui fait sa beauté, c'est qu'il est riche et qu'il est évidemment multicausal, hétéro, homo, pan, peu importe. Notre désir est beaucoup trop complexe pour être résumé par une théorie.
Et est-ce que tu as identifié le but de toutes ces expériences ?
Les buts, ils ont été assez différents selon les époques et selon les personnes qui ont fait ces recherches. Il y a des chercheurs qui cherchent parce qu'ils sont chercheurs. Voilà. Et d'accord. Donc, tout d'un coup, ils vont enquêter, par exemple, travailler sur le genre. Alors ça, c'est assez marrant. Il y a des chercheurs, par exemple, qui travaillent sur le genre et qui donc se disent qu'est-ce qui fait la différence entre un homme et une femme ? Eux, ils sont plutôt dans la partie biologique, donc ils vont aller regarder dans nos cerveaux, nos comportements, etc. Et puis, il se trouve que, comme comportement majoritaire des hommes, il y a le fait d'aimer les femmes. Statistiquement, c'est un comportement considéré comme majoritairement masculin. Donc, on va voir la petite différence. Et donc, en enquêtant sur le genre, ils se sont penchés sur l'orientation. Il y en a d'autres qui étaient eux-mêmes gays, ou qui sont eux-mêmes gays, et qui étaient dans une quête personnelle, je pense, peut-être un peu comme moi, mieux se comprendre. L'exemple que je donne souvent, c'est Simon Levay dans les années 90. Il a commencé ses recherches quand son mari est mort, enfin son mec est mort du sida. Donc il y avait une quête existentielle presque de chercher l'origine de ce malheur qui s'abattait sur la communauté, quoi. Donc chacun a ses réflexions et ses motivations personnelles. Et puis si on remonte, alors aujourd'hui peut-être qu'ils ne le diront pas, c'est peut-être encore le cas, mais en tout cas si on remonte dans le passé, il y en a qui l'assumaient plus clairement, c'était aussi effectivement là identifier la pièce cassée. Si on trouve l'origine, on peut trouver le remède. Donc des années 1900, on peut même dire des années 1860, aux années 60-70, quand on a commencé à sortir l'homosexualité des maladies mentales, on a dit non, vous ne pouvez plus vraiment faire ça. Et ça a été un long processus. Il y avait beaucoup de chercheurs qui cherchaient effectivement l'origine pour trouver la solution avec des théories qui partaient dans tous les sens. Hein. Bon, les gays font trop de testostérone, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On va les castrer. Puis en même moment, dans d'autres pays, déjà, les gays, je pense qu'ils. Oui, donc trop de testostérone, donc c'est des surhommes, donc encore plus pervers que les hommes classiques. Puis d'autres qui disent bon, c'est des vraies femmelettes. Ils ne doivent pas avoir assez de testo, on va leur tenter des injections. Donc, les théories pouvaient coexister et on bricolait des tentatives. Alors, spoiler, aucune n'a fonctionné. Hein.
Et alors, moi, je me suis, à un moment, posé la question, c'est que quasiment toute part de sexualité, mais peu du désir lui-même.
D'ailleurs, on parle d'orientation sexuelle, d'homosexualité. Moi, j'ai pris les termes qui sont ceux, soit du langage scientifique, soit ceux de notre époque. Mais en réalité, je le dis dans l'intro, c'est moi, je vois l'homosexualité comme une relation affective et sensible à l'autre. Et il y a plein de plans. Et on peut d'ailleurs avoir du désir sexuel pour un genre et du désir affectif et romantique pour un autre. C'est pas incompatible. Donc moi, j'ai choisi ceux qui avaient un désir sexuel et affectif. C'est mon cas. Plutôt pour les hommes. Mais effectivement, on a tendance à sexualiser l'orientation alors qu'on est dans la rencontre sensible et que parfois, et notamment les LGBT, comme on a été forcé de construire d'autres modes de relations, on a peut-être exploré justement ça. Parfois, la frontière est très mince entre l'amitié, la relation sexuelle, l'amour. Ça peut être très décloisonné, ça peut être très imbriqué. Donc, il faut évidemment prendre un peu de recul. Et moi, voilà, moi je pars vraiment sur un désir sexuel et affectif.
Et alors, je me suis posé une autre question. C'est pas plus simple de chercher les origines de l'hétérosexualité ?
C'est une très bonne question. Mais étonnamment, ça a été peu recherché. La norme s'interroge beaucoup moins que la marge.
Ah oui ?
Donc on va d'abord chercher la norme, la marge, pardon, et c'est plutôt en fouillant. En fait, il y a deux types de découvertes qui ont été faites sur l'hétérosexualité. Il y a les queers qui ont dit, bon, on en a marre de se faire disséquer, donc on va vous regarder. C'était principalement des féministes, des femmes d'ailleurs, qui ont dit, bon, alors nous, ce système ne convient pas très bien, donc on va quand même regarder ce système que vous imposez et que vous considérez comme normal et comme point de départ de regard du monde, donc il n'a pas besoin d'être interrogé, ben nous, on va l'interroger. Donc c'est les penseuses féministes, c'est Wittig, c'est Adrienne Rich, c'est toutes ces penseuses des années 60, 70, 80, jusqu'à maintenant. Et d'autres découvertes qui ont été faites, c'est quand on a regardé l'homosexualité, on s'est dit, ah bah tiens, il y a peut-être un truc qui expliquerait l'hétérosexualité, mais c'est presque une surprise. Par exemple, dans les dernières recherches sur la génétique, ils ont recherché les composantes génétiques qui pouvaient avoir un lien avec l'homosexualité. Peut-être qu'on y reviendra, mais ils ont trouvé quelque chose. Et un peu par surprise, ils ont aussi trouvé que... Donc en gros, c'est des combinaisons très complexes de gènes qui peuvent... On va résumer, mais créer un terrain qui prédispose. Donc ça ne conditionne pas, évidemment, mais on peut avoir un terrain génétique qui nous prédispose, comme à peu près à tout d'ailleurs, hein, à être heureux, à tomber dans l'addiction, à faire du diabète, à... Voilà, on a une base de génétique et elle aurait aussi une influence sur l'orientation. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait aussi peut-être des combinaisons complexes de gènes qui pouvaient avoir une influence sur l'hétérosexualité. Et d'ailleurs, surprise, c'était pas les mêmes. Donc on pouvait avoir, et attention, je mets des gros guillemets, c'est très caricatural, mais un petit peu les gènes PD et un petit peu des gènes hétéro. Et que si on a les deux, ben on a un petit peu des gènes de bi. On peut avoir aucun des deux et donc on a un petit peu des gènes qui nous prédisposent à la sexualité et c'est ok aussi. Et puis on peut avoir plus ou moins l'un ou plus ou moins de l'autre. Mais il a fallu qu'on recherche des gènes de gay pour se dire. Ah mais en fait, c'est peut-être pas aussi évident, ça sort peut-être pas du ciel, l'hétérosexualité non plus.
Mais il y a plusieurs éléments moi, qui m'ont frappé dans ces expériences. Quasiment toutes ont un biais patriarcal.
Oui.
Mais aussi colonial, européen chrétien. En gros, il y a deux genres, et encore, hein, les femmes pendant longtemps n'étaient pas un genre affirmé. C'est oublié, et pourtant tu l'évoques dans ton livre, l'existence d'un troisième, voire d'un quatrième genre dans certaines cultures qui ont été effacées par la colonisation européenne. Ça donne quand même le sentiment qu'il y a peu de documentation sur toutes les autres cultures qu'on a complètement annihilées, en fait.
Il y a un petit peu de documentation, mais il faut aller la chercher et se passionner pour ce genre de sujet. Donc, c'est parfois des livres à thèse, voilà, c'est pas forcément ultra grand public. Et c'est vrai que toutes ces recherches ont été faites dans des pays anglo-saxons ou européens, par des hommes blancs. Dans les années 1860, il y a des hommes blancs qui, gays qui ont commencé justement à théoriser cette idée de troisième sexe, troisième genre, sexe intermédiaire. Donc on est sur la deuxième moitié du 19e, avec l'idée de renaturaliser l'homosexuel. Il y en a un qui dit, je crois que c'est Karl Ulrich, avec un doute, qui dit « Nos actes considérés comme contre nature sont le produit d'une nature profonde, présente dès la naissance, et donc nous sommes quelque part dans le spectre entre l'homme et la femme. » Et souvent, ils ont fantasmé justement ces autres cultures qui existent encore dans plein de cultures, les nations natives nord-américaines, en Inde, chez les Inuits, donc on peut partir dans des endroits qui sont culturellement très différents. Il y a une place qui a été donnée à des groupes. Alors, si nous, on prend nos propres référents qu'on qualifierait d'hommes homosexuels ou de femmes transgenres ou des groupes qui regroupent les deux. Donc, ça va vraiment dépendre d'une culture à l'autre. Il y a des vraies sensibilités qui sont différentes. Mais des groupes considérés comme un troisième sexe, normalisés d'ailleurs, avec des rôles sociaux aussi, qu'on attendait. Ils sont parfois des rôles des hommes et des femmes, ou des rôles plutôt féminins, mais des personnes assignées hommes à la naissance, ou parfois des rôles particuliers, et ça va de conseiller matrimonial à guerrière ou à prêtre. Donc ça, des rôles assez normalisés, parfois c'était plus ou moins discriminé. Donc cette idée que le genre n'est pas blanc ou noir, existe dans plein de cultures et a été effectivement un peu écarté. Soit écarté, soit fantasmé, où on essaie de reproduire nos modèles à nous. Donc voilà, ça c'est un groupe, c'est les femmes transgenres. Bah, non, en fait, il y a des hommes homosexuels dans le tas. C'est difficile de mettre exactement nos grilles de lecture, parce que ce serait forcément un peu caricatural.
Et je trouve ça passionnant, je trouve que c'est vraiment un sujet passionnant. Après, c'est pas le sujet du livre, hein, mais sur les troisième et quatrième genres, c'est vraiment passionnant. Pour en revenir à la construction du livre, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais tu parles aussi de toi, ce qui nous fait encore plus adhérer à toi ici, je trouve. Qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre ton intimité dans cette enquête ?
Alors déjà, comme certains chercheurs qui se sont mis à chercher sur ce sujet parce qu'ils avaient une prise directe avec leur sujet, c'est mon cas, je ne peux pas faire semblant que ce sujet ne me touche pas, qu'il ne me concerne pas, donc j'ai voulu l'assumer. Peut-être aussi raconter les questionnements, les moments de doute, les allers-retours. Donc, c'est dans ces moments d'intimité-là où je peux me demander est-ce que ma question est homophobe, par exemple, est-ce que j'ai un vrai risque à trouver une réponse ou est-ce que ça me fera du bien. J'ai plein de copains qui m'ont envoyé « Oula, c'est trigger ton truc, je ne veux pas savoir !» Mais en même temps, j'ai envie de te lire. Voilà. Et donc, moi aussi, je me trigger moi-même en faisant ce bouquin. Donc, je me suis dit, on va le raconter. Et puis ensuite, je viens d'un magazine qui s'appelait Néon. Et le Gonzo, donc l'écriture à la première personne, était un peu notre marque de fabrique. Et je trouve qu'il y a un truc intéressant de, par cette petite goutte d'eau, de pouvoir voir la mer, dans le sens où, par exemple, le coming out est forcément un truc très personnel. L'expérience de l'homophobie est très personnelle. J'ai une expérience différente de l'homophobie de la tienne. Et en même temps, si tu es dans une minorité LGBTQIA, tu connais le principe d'expérience de l'homophobie ou de coming out. Et donc, même si mon expérience est différente, elle peut te parler. Et donc, je me dis que ça peut peut-être aider aussi à rentrer dans le sujet parce que c'est un peu plus universel, quoi.
Alors justement, tu parlais de Néon Magazine. Tu as fait un article il y a quelques années sur les thérapies de conversion. Tu en parles aussi dans le livre. Ouais. J'ai relu l'article en préparant l'émission. Moi, à chaque fois, ça me terrifie totalement. Quel souvenir, toi, tu gardes de ces trois jours ?
Le trouble. La peur, déjà, mais le trouble aussi. Parce qu'en revenant de ces trois jours, et j'étais bien dans mes baskets arc-en-ciel quand j'y suis allé, moi j'étais sûr de moi, je faisais une infiltration, mais vraiment, pour rien au monde, je changerais. Et en trois jours, ils arrivent quand même à te retourner le cerveau, où tu rentres chez toi en te disant « Et si c'était pas totalement faux ?» Pas dans mon cas, mais ce mec à côté de moi, quand ils racontent son traumatisme, parce que leur théorie, donc c'est un bricolage un peu new age, psychanalytique, leur théorie c'est qu'il y a un trouble dans l'enfance qui complique l'identification au genre masculin, et que le genre masculin c'est aimer les femmes, et donc si on ne s'identifie pas bien au genre masculin, généralement papa-maman, hein, mais ça peut être aussi les camarades de classe, voilà, cet environnement proche, on construit un ensemble de failles, et dans ces failles il y a l'homosexualité. Et donc si on répare ce traumatisme intérieur, paf, c'est bon, à nous les petites pépées. Donc moi j'arrive en me disant, voilà, moi j'ai une enfance plutôt heureuse, oui, c'est toujours compliqué de se construire homosexuel dans un monde hétéro, mais j'ai pas eu de gros trauma, donc ça me regarde pas. Et puis le mec à côté de moi, il raconte son trauma, et puis il se trouve que son désir, il correspond exactement à son trauma, et tu te dis, ça se trouve, c'est vrai pour lui, quoi. Et donc je suis rentré troublé. Et c'est mes potes hétéros qui m'ont dit genre, oh, tu vas redescendre. C'est leur boulot de te retourner la tête, en fait. Ils jouent avec tes émotions dans des trucs qui sont très rudes. On te fait revivre un coup de batte de baseball. Enfin, moi, j'ai vu un mec taper dans une batte de baseball sur un punching ball en disant « Vas-y, c'est ton père. Venge-toi. »
C'est violent.
Et tu vas ressortir de ce traumatisme guéri. Et le mec, pendant 10 minutes, se déchaîne sous les insultes homophobes pour qu'il revive son père homophobe et violent, quoi. Et puis juste après, prenons-nous tous dans les bras. Oui, alors oui, ça semblait un peu
dans
un
film érotique. Dans l'article, quand même. Et surtout la fin de l'article, je trouve très mignonne. Enfin,
oui, c'est le moment où je me suis dit genre... pour raconter, oui, je cherche les clés de ma chambre, c'est le coach qui l'a, et le coach est parti faire le tour du lac. C'est le dernier soir, on a un peu lâché les vannes, on a eu un peu de musique, on s'est détendu, les vannes homosexuelles ont commencé à ressortir, on sentait cette tension un peu sexuelle, et les deux coachs sont partis se promener autour du lac. Et, ouais, come on guys, je me demande si ce rendez-vous-là n'est pas aussi le moment de retrouvailles entre ces deux mecs qui font tous les deux fois par an ce stage, tu vois. Donc c'est évidemment, et d'ailleurs beaucoup de leaders de thérapie de conversion ont fait leur coming out dans les années 2010.
En s'excusant, t'en parles.
Ouais, en s'excusant et en disant, en fait on a poussé des gens au suicide, quoi. Et nous-mêmes on s'est menti, alors soit on vous a caché qu'on avait toujours ce désir et ou ces pratiques, soit on a réussi à se convaincre nous-mêmes qu'on ne l'avait pas, mais le jour où ils nous pètent au visage, en fait c'est pas possible, quoi. Donc oui, c'est c'est toujours très, très tendancieux. Mais du coup, ils jouent sur nos émotions, ils nous font faire des montagnes russes et on craquait un peu. Et donc, on...
Ah, donc t'es rentré troublé. Et pourtant, tu t'étais préparé à cette immersion.
Ah oui, oui, j'étais, je pense que je ne suis jamais parti aussi préparé à un reportage. Et malgré ça, je suis ressorti troublé. J'ai appelé des potes psychanalystes.
Ah oui, d'accord. Ah oui, à ce moment-là.
Ils m'ont dit genre, oulala, je vois. Alors attends, alors, c'est un petit bricolage qui mélange un peu de ça, de ça, de ça. Ok, c'est du bullshit, mais en psychologie, c'est vraiment du 100%. Mais effectivement, ils ont sorti une petite référence d'ici, un nom qui a l'air sérieux là. Donc si tu ne vas pas fouiller un peu, les noms qui te sortent, c'est les aujourd'hui. Enfin. Joseph Nicolosi, c'est un psychologue qui a officié jusqu'encore récemment, là il est décédé, mais aux États-Unis, qui faisait des séances exactement de thérapie. Alors les noms changent, avant c'était maintenant c'est réparatrice. Ouais. Voilà, et maintenant ils te disent on répare l'enfant et le changement d'orientation est juste le corollaire. C'est pas ce que tu viens chercher. Mais voilà, on change juste les termes, le résultat est le même. Et ces mecs-là officient encore, il y en a encore qui officient, notamment aux États-Unis.
Je mettrai le lien de l'article, j'espère qu'il va rester parce qu'on a appris que Néon fermait.
Le site ferme aussi assez prochainement, mais il va rester peut-être au moins jusqu'à la fin de l'année, je pense.
J'ai un autre point qui m'a assez marqué dans ton livre, mais parce que c'est ton intimité. On assiste à une hausse des agressions homophobes, lesbophobes, transphobes en France, et pas qu'en France. Tu détailles d'ailleurs une agression que tu as subie cet été. Quel regard tu portes dessus ? Est-ce que tu penses que la société est un peu plus LGBT-phobe ou est-ce que les agresseurs ne se cachent plus ?
Je pense qu'il y a plusieurs choses en parallèle. Je pense que déjà, peut-être que les agresseurs ne se cachent plus, mais peut-être que les victimes ne se cachent un peu moins aussi, d'où la montée des chiffres, parce qu'on va le déclarer un peu plus, on va peut-être oser aller un peu plus au commissariat, un peu plus. Donc déjà, je pense qu'il y a une hausse de la visibilité, parce qu'on arrête de fermer notre gueule. Je pense qu'il y a une évolution plutôt positive chez plein de gens, et que cette évolution positive crispe la frange réactionnaire. J'ai plutôt le sentiment que comme ça bouscule un peu, et on le voit avec les personnes trans, où il y a une espèce de nouvelle panique morale aujourd'hui, qui est celle qu'il y avait sur les PD à l'époque. Et donc là, comme les personnes trans commencent à dire, genre, enfin, on commence à les écouter un tout petit peu, ça fait monter la panique morale en face, et donc le camp réactionnaire devient encore plus agressif. Et donc, on fait un sujet, et monte au créneau. Et donc, je pense que sur l'homophobie, en général, c'est pareil. Comme on commence à dire, genre, bon, on va arrêter de se faire marcher dessus, si ça vous dérange pas, puis on va même demander un peu de droit. Les personnes les plus homophobes vont être encore plus visibles, vont ouvrir encore plus leur gueule, se sentir encore plus autorisées. Puis il y a un petit déplacement de la fenêtre d'Overton, je crois. Donc c'est la fenêtre qui autorise ce qu'on peut dire ou pas. Et quand on regarde nos élites, et comme ces élites elles-mêmes déplacent un petit peu la fenêtre sur le côté droite,
très droite.
Ben, ça devient plus tolérable d'avoir des propos homophobes ou transphobes, puisque la preuve, ils le disent bien à la télé.
Voilà. Oui, c'est des boucs émissaires interchangeables dont Rosane Le Kerboulec parle dans Les Humiliés d'ailleurs. Moi, je voudrais un mot sur la maison d'édition, les éditions Goutte d'Or. Alors, je les recommande beaucoup. Je crois que j'avais déjà parlé de Flic de Valentin Gendron ici, de Steak Machine aussi. Ouais. J'avais trouvé ça très bien. C'était une évidence pour toi que ce livre existe chez eux ?
Ça a été un coup de chance énorme. J'ai envoyé à un seul éditeur, c'était eux. Je pense que s'ils avaient dit non, j'aurais peut-être cherché d'autres éditeurs, mais en fait, je ne me suis pas vraiment posé la question. Et il y a eu, on peut raconter un peu les coulisses, mais moi je les avais contactés pour un premier projet, parce que j'adore leur maison d'édition, justement parce qu'ils font du journalisme par l'intime, hein, c'est un peu leur livre.
Exactement, de la non-fiction.
Voilà, c'est de l'information, mais on va y aller sous une forme un peu plus à l'américaine, un peu plus romancée, mais tout doit être vrai. Donc moi j'adore ce format-là, j'adorais leurs bouquins, je les ai rencontrés, je leur ai proposé un projet, ils m'ont dit super... J'ai paniqué, j'étais encore journaliste, j'aurais rien envoyé pendant un an, et puis au bout d'un an, quand je leur ai renvoyé, ils m'ont dit « Bah oui, mais t'es gentil, mais il y a un livre qui sort dans deux mois chez Flammarion sur le sujet, donc c'était les thérapies de conversion.
Ah. »
Un livre qui s'appelle « Dieu est amour », qui est super, qui infiltre les thérapies de conversion, donc ils m'ont dit « On va pas en sortir un dans deux ans, raté. Mais propose-nous un truc. »
Ils ont pas fermé la porte, c'est bien.
Et ils ont pas fermé la porte. Et du coup, j'ai fait cette thérapie, et puis mon chef m'a dit « Non mais en fait, t'as un deuxième sujet sur pourquoi t'es gay, là, donc tu vas le faire. » Le sujet me trigger un peu à l'époque, donc j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Puis un jour, il m'a dit « Alors, c'est pour dans 6 mois, donc tu vas l'écrire. » Je l'ai écrit, j'ai rendu mon article et il m'a dit « Ben, c'est super, mais là, t'as un livre, en fait. »
Ah ouais.
Et je lui ai dit « Ben, ça tombe bien, parce que je suis un éditeur. » J'ai contacté la Goutte d'Or. Je leur ai dit « Voilà, j'ai écrit 2 chapitres et voilà cet article. » Et ils m'ont dit « Ben, super, super, on signe, on y va. » Et je suis ravi d'avoir bossé avec eux, parce que c'est et des éditeurs de dingue et des humains de dingue. Donc, je pense que j'ai quand même beaucoup de chance.
Combien de temps t'as mis pour l'écrire ?
Je dis 3 ans. J'ai commencé mes recherches à 3 ans. Il y a une première partie pour l'article. Ensuite, j'ai avancé doucement sur le début de projet de bouquin parce que je travaillais à Néon et que c'était... J'avais du mal à... Donc, je faisais beaucoup de recherches, mais je n'écrivais pas des masses. Et puis ensuite, j'ai signé avec eux. Et en un an et demi, deux ans, j'ai écrit tout le reste.
Ah, ça allait vite, du coup.
Donc, ça a été assez rapide sur la fin. Mais j'étais indépendant. Et donc, j'ai passé quasiment du temps plein sur la dernière année.
Mais oui, moi, je recommande beaucoup ces éditions.
Ouais, lisez tous leurs bouquins. Édition de la Goutte d'Or.
Moi, je suis ravi de la sortie de ton livre. L'année dernière est sortie Écologie déviante de Si le cerf Mollepoix. Tu en parles dans ton bouquin d'ailleurs. Au printemps est sorti PD au point. On a fait un épisode avec Florent Manelli. Tu sors 4%. Est sorti aussi, il y a peu là tout de suite, Un manifeste gay de Carl Wittmann, analysé et commenté toujours par Si le cerf Mollepoix. J'ai envie de dire enfin merci aux auteurs, enfin des journalistes concernés qui reprennent les récits de la question gay. Ça manquait. Comment t'expliques que toutes ces œuvres arrivent un peu en même temps ?
C'est une bonne question, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas de réponse à ça. Je pense qu'il y a justement des... déjà, je pense que ça évolue un peu dans la société en général et donc que les éditeurs sont un peu moins frileux. Parce que peut-être que la voix, on a voulu la porter, mais qu'on nous disait, ça n'intéressera personne. Ça ne va pas être visible, justement. donc peut-être que les éditeurs étaient plus frileux et que maintenant, les gens... Non seulement les PD ont plus peur d'aller à la librairie, d'acheter un livre... clairement pédé ou de se balader avec. Et puis peut-être même que nos amis hétéros sont curieux aussi, un peu, et qu'ils veulent se déconstruire, en découvrir plus. Donc déjà, il y a un marché. Et donc, on nous a ouvert la porte, peut-être. Effectivement, il y a des gens comme Si le cerf Mollepoix que je cite dans le bouquin. C'était mon prof de yoga. Et puis, il se trouve que tout d'un coup, il m'a envoyé ses bouquins, pour qui c'est aussi un combat, quoi. De replonger dans nos archives, dans notre histoire, de voir comment on s'est construit, comment on nous a construit. Le livre PD, par exemple, sous la direction de Florent Manini, qui est super, qu'il faut lire, parce que c'est plein de voix différentes. Exactement. Sur ce qu'est PD. Ouais. Et ces voix sont justement tellement différentes, c'est tellement riche. Et c'est là qu'on ressort, c'est PD au pluriel, quoi.
Et vous êtes tous un peu de la même génération, j'ai l'impression.
Quand même. Oui, on a entre 30 et 40, je pense, effectivement.
Il y a quand même une sorte de mouvement et ça fait du bien parce que j'ai le sentiment que ça a été mis de côté, peut-être moins la littérature féministe ou lesbienne ou sur le genre. Et d'un coup, j'ai l'impression que les gays reprennent la parole et enfin parce que on pouvait avoir certains porte-voix qu'on voulait plus.
Puis les gays, on a bien aimé prendre la parole justement pour pousser un peu les autres derrière.
Ouais.
Le problème du mal, c'est que quand il y a eu les émeutes de Stonewall, c'était des personnes racisées, des personnes trans, des drag queens. Bon, sur le devant de la photo, c'était des mecs gays.
Exactement.
On a eu tendance à faire ça pendant longtemps. Et puis là, je pense qu'il y a un peu d'intersectionnalité qui se glisse maintenant dans nos discours, où on commence à se rendre compte que, allez, on va ouvrir la porte à plus de voix possibles. Et elles ne sont pas concurrentes, elles peuvent aussi être côte à côte, quoi.
Oui, complémentaires, oui. Alors du coup, je l'ai évoqué aussi en introduction, tu es aussi photographe.
Oui.
En argentique. On peut voir tes photos sur le compte Regarde les Hommes, sur Instagram notamment. Tu exposes aussi en galerie. Mmh. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la photo ?
La photo, elle est venue un peu, pas par hasard, mais elle est venue un peu comme ça. J'en ai fait quand j'avais 20 ans, et puis un jour, j'ai rangé l'appareil, j'ai pas retouché pendant des années. Et puis, je l'ai ressorti il y a 3 ans, et je savais pas vraiment ce que je voulais photographier au début. Et le sujet s'est imposé à moi. Mon compte s'appelle Regarde les Hommes, c'est pas un hasard. Enfin, le vrai nom, c'est Regarde les Hommes changé, mais le hâte, c'est Regarde les Hommes. Donc, référence à Regarde les Hommes tomber. Sauf que tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'autour de moi, j'avais plein de visions de la masculinité qui était belle, qui était libérée, qui était détendue, qui jouait justement, qui pouvait être vraiment dans le jeu sur le très viril, mais aussi sur le très féminin. Et on va mélanger les genres et les codes et les couleurs et les maquillages. Et donc j'ai commencé à photographier ça parce que je trouvais ça beau. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que j'avais mon thème, en fait. C'était ça qui s'est imposé à moi. Et puis progressivement, je fais beaucoup au Levant aussi. Donc j'ai un travail qui s'est fait sur la liberté de la nudité et la tendresse masculine. Qu'autorise cette liberté-là, où je me suis retrouvé à avoir des images.
C'est beau ce mot, la tendresse.
Ouais, on l'utilise pas assez. Hein. Et moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est que tout d'un coup, on s'est retrouvé avec quelque chose qui peut être vu comme sexuel. Et en fait, moi qui ai vu ces scènes-là, je sais que c'est pas sexuel. Je sais que c'est deux amis peuvent se prendre dans les bras, se mettre une main sur l'épaule et une main sur la fesse, et que c'est pas parce qu'ils veulent se pécho. C'est parce qu'on a juste envie de se faire un câlin et que c'est chouette de se faire des câlins. Et donc, je me suis retrouvé avec toute cette tendresse autour de moi et que j'ai voulu un petit peu documenter, quoi, comme j'ai pu, comme je peux.
Et tu parles justement du lieu, l'île du Levant. Mm-hmm. Ça représente quoi pour toi, cet endroit ?
Justement, un endroit de liberté. Alors, c'est marrant, on parlait des biais. C'est un endroit blanc, clairement, plutôt masculin. Donc ça, c'est ce qui ressort dans mes photos. Un jour, je les ai regardées, je me suis dit genre, ouf, mais dis donc, ses corps se ressemblent beaucoup et ses couleurs de peau se ressemblent beaucoup. Donc faut pas se mentir, tu vois, faut être conscient de ça. Mais c'est aussi, moi, j'ai trouvé un endroit de liberté. C'est une île déjà. Donc il y a, on croit ou pas aux forces telluriques, mais c'est une île volcanique. Donc il y a quelque chose qui est quand même assez dense. C'est le fait que ce soit une île sans lumière le soir, sans voiture, on est vraiment coupé du monde avec un réseau qui est balbutiant. On allume moins Grindr. On va parler aux gens sur la plage.
C'est une île naturiste aussi.
C'est une île naturiste, donc il y a forcément un autre rapport qui se met en place. Notre rapport à l'autre, à notre rapport au corps, à notre rapport justement au désir, à ce que je montre, à ce que je montre pas. Moi, je trouve que le naturisme désexualise un peu le corps, dans le bon sens du terme. Une fois qu'on s'est tous vus nus, il va falloir jouer sur autre chose pour se plaire. Donc on va peut-être se parler, on va peut-être se faire des sourires, on va peut-être se faire des eye contact. Et donc ça, c'est plutôt chouette. Et donc moi, c'est vrai que j'y suis allé pour la première fois il y a 4 ans, un peu par hasard. Et maintenant, ça fait 4 ans que j'y vais tous les étés.
Totalement par hasard, sur une ligne naturiste, tu n'avais pas de réticence?
Alors si, j'avais une envie, je pense, depuis longtemps. Il se trouve que j'avais un autre copain qui m'avait invité dans un autre lieu naturiste qui s'appelle le CHM. Et donc, je suis allé là, et puis une fois, à Berlin, je me suis dit, allez, vas-y, il y a des gens nus, donc danse nu, mais c'était encore autre chose. Mais voilà, je pense que ça me travaillait, parce que j'étais très angoissé avec mon corps. Et donc, il y a eu un switch peut-être un petit peu radical, où tout d'un coup, le fait de se déshabiller a fait que j'ai appris à aimer mon corps, où j'ai pas eu de choix, en fait. Il fallait faire avec, à le retrouver désirable, peut-être, et aussi à le retrouver dans le commun de tous les corps. Et puis, peut-être même avoir, moi, des corps qui, je pense, ne me plaisaient pas, sur une grille Grindr, par exemple, mais qui tout d'un coup me plaisent parce qu'il y a une énergie, etc. Et que je me suis dit, c'est peut-être la même chose pour moi. Et donc, un copain au Levant a mis une petite story en disant, j'ai une place dans ma maison avec une vue magnifique dans les cactus et la mer derrière. Et j'ai dit, je veux venir, j'arrive. super, à la semaine prochaine. Et voilà, j'y suis allé. J'ai dit, on réserve quand pour l'année prochaine?
Ah oui, sans appréhension et tout. Et après, c'était parti.
Et après, c'était parti. Et puis, au bout de 24 heures, tu vas à l'épicerie. C'était l'année du Covid.
Puis tu trouves... Donc t'as un masque mais t'es à poil.
Et je me suis retrouvé avec un masque et mes baskets et je me suis dit genre j'ai oublié que j'étais nu en fait.
D'accord.
Et c'est bon, c'est parti. Ouais.
Ah c'est génial. Et alors du coup pour terminer cette émission, quels sont tes futurs projets?
Alors là moi je suis journaliste pigiste donc je pige encore un peu. J'avais très envie d'écrire sur le sujet du chemsex qui est un sujet qui me touche beaucoup et sur lequel j'ai déjà un peu bossé. Mais il se trouve que les choses ont fait que, et il y a un projet de livre qui est en cours là sur le Levant, justement, sur les garçons du Levant. Donc projet de livre photo. Voilà, le destin l'a amené à moi à ce moment-là, donc c'est mon prochain projet, j'espère qu'il sort au printemps. Je peux pas trop en dire pour l'instant, on n'a pas signé, donc voilà, mais ça devrait peut-être s'appeler Les garçons du Levant. Et je ne peux pas citer la maison d'édition pour l'instant, tant qu'on n'a pas signé, mais on se voit la semaine prochaine. Voilà. Donc là, le prochain projet, ce serait un livre de photos, justement, sur le Levant. Et je crois que j'ai besoin d'un peu de temps, parce qu'après 4% en théorie, j'ai quand même beaucoup plongé dans du concret, dans de la recherche, dans des études. Donc c'était passionnant à faire. Peut-être que j'ai envie d'un truc un peu plus moins scientifique, moins documenté, un peu plus léger. Donc on verra ce qui se fera.
Et du coup, pour te suivre, pour suivre ton actualité, on fait quoi? Comment on fait?
Alors maintenant, je suis sur Blue Sky, mais je ne sais pas si je vais y rester. C'est le nouveau Twitter.
Ouais.
Mathias Chaillot, avec un seul T, Mathias. Et globalement, LinkedIn, Instagram, Twitter. Je suis là et regarde les hommes pour le compte photo.
Super.
Et voilà, vous pouvez me follower, comme on dit. Je serais ravi de vous follower aussi.
Merci beaucoup, Mathias.
Merci à toi.
À bientôt.